Nous sommes au Daf Lamed Zayin bientôt. On a un petit rattrapage de Lamed Vav Amud Bet. Le sujet commençait à Lamed Vav Amud Bet au milieu de la page avec une Sheila de Rabbi Irmiya auprès de Rabbi Zera. Dans le cas d'un Torem Michelo al Shel Chavero, je me dévoue pour Shimon, je prélève de mon blé sur le sien. Donc, cette terouma, elle est désignée, ça fait appel à deux intervenants, propriétaire du blé, sur lequel il y avait un chiouf de prélèvement, et celui qui s'est dévoué, qui a fourni le blé prélevé. D'où la question, à qui revient Tovat Hana'a? Tovat Hana'a, c'est le droit que j'ai de choisir le Kohen à qui j'attribue la terouma. Et ce droit que la Torah m'a accordé, il est un peu monnayable. Parce que si le grand-père d'un Kohen veut me donner un petit dinar pour me motiver à verser mes troumot chez son petit-fils, c'est faisable. Et donc, ce droit de Tovat Hana'a, avec sa contrepartie, si jamais ça peut me valoir une petite pièce, à qui revient ce droit? Au Baal HaPerot, ou bien à celui qui s'est dévoué, qui a prélevé, qui a fourni le prélèvement? Telle était la question, Rabbi Zera lui a répondu, dans le pasouk, ça s'entend que c'est celui qui est Baal HaPerot, parce que c'est écrit « Et kol tevoa zaracha venatata ». Qui a le droit de choisir à qui j'attribue? C'est ça, venatata, tu donnes au Kohen, tu le choisis pour lui l'attribuer. Celui qui est Baal HaTevoa. Et tu vas, c'est alors que Rabbi Irmiya objecte avec la Mishnah, la nôtre. La Mishnah disait « Torem et terumotav et masrotav ledaato ». Or, comment on avait envisagé le pshat de cette phrase? C'est que nécessairement, le madir prélève sur la récolte du moudar à partir de son propre blé. Il fait cadeau de son propre blé pour prélever et acquitter le blé du moudar. Et c'est ce qui fait qu'il peut agir sans le da'at du moudar. Et comme il agit de son propre chef, ça ne s'appelle pas qu'il exécute un ordre, une mission, ça ne s'appelle pas qu'il lui fait profiter. Ah, qui lui fait économiser de l'argent, c'est pas un problème. Nos Mishnayot, c'est Hanan, et Hanan, il pense que, sur ça, on dit, Mavriya Hari, c'est pas un problème, comme on a déjà vu, il peut lui payer ses dettes, il peut lui cotiser le Mahatita Shekel, et il peut aussi lui cotiser cette terouma, entre guillemets. Donc, c'est comme ça qu'on voulait comprendre la Mishnah, les datos, c'est les datatsmo, donc il est Tore Michelo al Shel Chavero. Et la Mishnah dit que c'est permis. Vei Amra Tovatana de Balakeri. Et si tu dis que le droit de Tovatana revient au Baal HaKeri, Hakameanele, il s'avère que le Madir fait profiter le Moudar parce que en faisant ce prélèvement, il lui donne un avantage qui est monnayable. Ce Tovatana, le grand-père d'un Kohen pourrait, si c'est lui le décideur maintenant, à qui on attribue, à quel Kohen on attribue, c'est à lui que reviendra la petite pièce. Ça s'appelle que moi, le Madir, je lui fais une Anao Moudar. Et donc, ça devrait être assourd. Et la Mishnah, pourtant, dit que c'est permis. Et la Shmamina Tovatana, dit-le. J'entends de là que la Tovatana revient au Torem et non au Baal HaKeri. C'est l'objection de Rabbi Irmiya. Amré, l'Agma dit, c'est pas forcément un problème. C'est pas forcément une preuve. Non. Michel Baal HaKeri, Al-Shel Baal HaKeri. La Mishnah, elle parle d'un Madir qui est Torem sur le Keri du Moudar. Mais aussi Michelo, pas Michel Atzmo, pas son propre blé. Le blé de Shimon, il prélève sur la production de Shimon. Ah, mais il y a un problème de date. Je ne peux pas m'auto-déclarer Shaliach. Il faut que ce soit mis date à Baalim. Je réponds, ou le dato de Baal HaKeri. Comment c'est les dates à Baal HaKeri? Ben Omer, Kolarotze Litrom, Yavo Vitrom. Cet Ukimta, on l'avait déjà envisagé plus haut dans la même page. Qu'il suffit d'avoir eu l'autorisation du Baal HaKeri. Que le Moudar, il aurait passé une annonce. Celui qui veut se dévouer pour prélever, qu'il fasse. Donc maintenant, tout le monde est autorisé à se déclarer Shaliach. J'agis Mida Tabalim. Et donc, c'est permis. Ça ne s'appelle pas que le Madir produit une Anao au Moudar, puisqu'il n'exécute pas un ordre. Il n'y avait pas de Shlichut proprement dite. Mais ça reste Midat. Très bien. Et avec cette interprétation, du coup, la Mishnah est complètement à côté, c'est pas notre sujet. Nous, on parle de Toré Michelo al Shel Chavero, à qui revient Tovatana, mais c'est pas le sujet de la Mishnah. On a mis fin à la question. Tashma vient Kouda Marabi Avao Marabi Uchanana Magdish Mosif Chomesh. Mitkaper Ose Temura, Vea Toré Michelo al Sheno Shelo, Tovatana Shelo. Bien sûr, c'est le troisième sujet qui nous intéresse, mais avant ça, dit Rabbi Yochanan, trois points. Quand Réhouven, il est Magdish un animal en faveur de Shimon. Alors, on a déjà vu que ça doit se faire Midat. C'est ce qu'on a vu. Je veux désigner tel animal Korban au nom de Monsieur Shimon qui doit amener un Khatat. Je peux, si j'ai son date. Maintenant, l'animal est Korban, Kadosh. Je veux le racheter. Ça marche pas. Kedusha Taguf, on ne peut pas libérer par Pidyon que si l'animal présente un défaut. L'animal a eu un défaut. On peut racheter. Je veux racheter. Il veut racheter. Donc, qui doit payer le chomesh? Il indique que quand quelqu'un est makdish, s'il veut racheter ce qu'il a été makdish, il doit prévoir un cinquième d'argent en plus. Et si c'est quelqu'un d'autre, eh ben, il n'y a pas de chomesh. Et donc ici, qui est celui qui est considéré makdish pour avoir à payer le chomesh? Ben, nous dit Rabbi Yochanan, c'est celui qui littéralement a été makdish l'animal. Ce n'est pas celui pour qui, en faveur de qui, on a désigné l'animal sacré. Umit kaper, c'est temura. Qui c'est qui a le din de Tmura? Tmura, c'est qu'un animal korban, je vais dire que sa kedusha aille sur un autre, même si mon intention c'était de libérer le premier de cette kedusha pour que le deuxième soit le substitut du premier, le din, c'est qu'au final, les deux sont kodesh. Les deux ont la kedusha. Comme il est dit dans la Torah, Ve'ayahu, utmurato yiyeh kodesh. Lui-même et l'autre, celui que j'ai désigné Tmura substitut, l'un comme l'autre seront Kodesh. La Kedusha s'étend. Maintenant, qui a ce pouvoir? Le Bala Korban. Qui est le Bala Korban? Eh bien, c'est celui qui est Mitkaper. Celui au nom de qui le Korban a été désigné, celui pour qui le Korban est prévu pour sa Kapara, c'est-à-dire Shimon. C'est lui qui a le pouvoir de faire Tmura, ça s'appelle son Korban. Et Réhouven, c'est lui qui a fourni l'animal. Mais ce n'est pas lui le Bala Korban pour avoir ce digne de Tmura. Maintenant, Toré Michelo al Sheno Shelo. Vous savez, Rabbi Yochanan, il a traité des sujets où il y a deux intervenants dans une même affaire. D'accord? Là, c'était pour un animal korban. Deux aspects. L'aspect de Chomesh, dans le cadre d'un pidyon, ou l'aspect de Tmura. Maintenant, à Toré Michelo al Sheno Shelo, c'est exactement notre sujet. Quelqu'un, il veut prélever de son propre blé pour acquitter la production de l'autre. Tovatana Shelo. Rabbi Yochanan, il a dit en toutes lettres. La Tovatana revient à lui, celui qui prélève. Exactement le contraire de Rabbi Zera. Et donc, c'est exactement ce que Rabbi Irmi a démontré, a voulu démontrer de la Mishnah. On a dit que ce n'est pas une preuve formelle, certes, mais Rabbi Yochanan, il a pris le parti, il a pris le contre-pied de Rabbi Zera. Problème, c'est que Rabbi Zera s'était fondé sur le Passouk, souvenons-nous. Tevoa Zaracha Venatata. Qui est celui qui a le droit d'attribuer au Kohen et donc de choisir le Kohen? C'est celui qui est propriétaire de Tevoa Zaracha. Dit Loran, ailleurs dans la Gemara, dans Maseret Moura, on a répondu à ça, en relisant le pasouk différemment. Aser, te aser et kol Tevoa Zaracha, etc. Venatata. Venatata est associé à Aser, te aser. Celui qui est le préleveur, même si ce n'est pas pour son blé qu'il prélève, il prélève pour le blé d'un autre. Mais il a prélevé lui, alors c'est à lui qu'on a dit Venatata, tu as le droit de choisir. À toi revient le droit de choisir le Kohen et donc la Tovatana. Et donc c'est réglé, c'est ça la conclusion, plutôt comme Rabbi Yochanan. Point. Mais l'amdo midrash alachot vagadot avaloy elamdenu mikra, la Mishnah disait que le madir ana'a, si je fais un éder, que l'autre ne puisse pas profiter de moi. On est ici en bas de la page, aux deux points, là-bas. Non, la medva vamoud bet, tournez une page. En bas de la page, aux deux points. Mais l'amdo midrash. Six lignes, cinq lignes. Mais l'amdo midrash, c'est quand j'ai fait un vœu d'interdire quelqu'un qui ne puisse pas profiter de moi. Je suis le madir, et lui s'appelle le moudar. Eh bien, la Mishnah dit que malgré tout, je peux lui enseigner. Midrash, halachot vagadot. C'est par exemple des sujets de Torah Shebaalpé. Le midrash des psukim, ou des halachot, c'est de la Gemara par exemple. Agadot. Tout ça, c'est permis. Avaloy alamdenu mikra, mais je ne peux pas lui enseigner la loi écrite. Le texte de la Torah, c'est ce qu'on appelle mikra. Tanar, je n'aurais pas le droit de lui enseigner. Demande la Gemara à Mikra Maïta Malo. Pourquoi c'est interdit de lui enseigner du Mikra? Mishum de Kameanele, parce que je lui cause un profit, un bénéfice. Parce que je lui enseigne bénévole. Mais des cours, ça se paye. Donc moi, si je lui fais un service bénévole, eh ben, c'est gagnant pour lui, ça s'appelle un profit. C'est pourquoi c'est assourd. Ben, ce titre, Midrash Nami Kameanele. Si je lui enseigne du Midrash bénévole, c'est aussi un service et un profit. Ça devrait être assourd au même titre. Donc, quelle est la différence entre l'un et l'autre? Amar Shmuel Bemakom chez Notlim Sachar à la Mikra et Notlim Sachar à la Midrash. Le Tana, il a parlé dans un endroit où on s'autorise à être rémunéré pour enseigner Mikra, mais on ne prend pas de Sachar pour l'enseignement de Torah Shebalpé, Midrash en un mot. Ça voudrait dire a priori, c'est une question d'habitude locale, mais pourquoi le Tana il a choisi comme ça? Que Midrash, on ne prend pas de Sachar et donc je peux lui enseigner, il ne profite pas puisque je ne vais pas économiser de l'argent. Et Mikra, oui, on prend un Sachar et donc ça s'appelle lui économiser de l'argent. Et donc ce cours qui est normalement payant, je lui fais gratuit, ça s'appelle un profit, c'est assourd. Ma pitom, pourquoi on est choisi une situation comme ça? Ça pouvait être le contraire. Si l'histoire du Sachar, c'est libre, on peut prendre des Sachar pour Mikra ou Midrash. Je redis, Mikra, entendons Torah Shevirtav. Midrash, entendons Torah Shebalpé. Que ce soit clair une fois pour toutes, pour toute cette page. Maintenant, du moment que c'est une question de choix personnel, chaque endroit, comme ils ont mis en place. Imaginons que Mikra, on demande, et Midrash, on ne demande pas de Sachar. Ça pouvait être le contraire. Alors pourquoi le Tana, il a parlé spécifiquement de ça? Que Mikra, il y a Sachar, donc c'est assourd d'enseigner au Moudar. Midrash, il n'y a pas, et c'est permis d'enseigner au Moudar. Comment, sur quoi s'est fondé ce choix et cette présentation dans la Mishnah? Réponse, c'est la question. Maïpaska, qu'est-ce qui tranche? Qu'est-ce qui fait que le Tana, il a posé les choses comme ça? Comme si c'est plutôt comme ça pour Mikra et plutôt comme cela pour Midrash. Mais il n'y a rien, il n'y a aucune prédisposition à que ce soit comme ça. Si on peut toujours prendre du Sachar ou on peut ne pas le prendre. Réponse à Kamash Malan, voilà comment le Tana nous fait entendre. Deafil ou Bemakom Shenotling Sachar, même si pour l'enseignement, on est dans un endroit où on s'autorise de prendre un Sachar, à la Mikra Sharé, les Mishkal, c'est uniquement pour Torah Shevirtav que oui, c'est permis de percevoir un Sachar, mais à la Midrash Lo Sharé, les Mishkal. Mais pour Torah Shebalpé, c'est assourd de percevoir un Sachar. Comme on va l'établir tout de suite, qu'il y a une différence entre l'un et l'autre, que Torah Shebalpé, on doit l'enseigner bénévolement, Torah Shevirtav, on peut l'enseigner avec rémunération. Ce qui fait que c'est ça qui a établi le choix du Tana. Que Mikra, on s'autorise à prendre un Sachar, puisque c'est la loi, on a le droit. Alors du coup, c'est assourd d'enseigner au Moudar, parce qu'il profite si je lui fais gratuit. C'est payant. C'est normalement, c'est payant. Ça vaut de l'argent, ce cours. Tu lui fais gratuit, c'est que tu lui offres de l'argent. Tu lui fais un service qui s'appelle bénéfice pour lui, puisque c'est normalement payant. Mais Mikra, que c'est forcément gratuit, parce que c'est assourd de percevoir un Sachar. Alors tu peux lui enseigner. Et le choix, pourquoi là on a choisi un endroit où oui, on se permet? Parce que Mikra, c'est permis. Minadin. Midrash, c'est assourd, Minadin. Alors maintenant, le Rav explique. Pourquoi Shmuel a parlé de certains endroits? Shmuel a bien fait Nukimta. Il a dit, notre Mishnah parle dans un endroit où on est Notel Sachar à la Mikra. Ah, parce qu'il y a des endroits différents avec des pratiques différentes? Oui. Il y a des endroits, dit le Rav, où même pour le Mikra, on ne s'est pas autorisé à prendre du Sachar, même si c'est permis. Minadin. Mais pour ne pas confondre entre un enseignement et un autre, on a dit non, chez nous, tout enseignement est non rémunéré. Dans ce genre d'endroit, il s'avère que c'est permis d'enseigner au Moudar, soit Midrash, soit Mikra, puisque ce n'est pas une ana, c'est non payant. Mais dans les endroits où il est question d'un Sachar, et précisément, la Gemara vient de définir, le Sachar, il en est question uniquement pour Mikra et pas pour Midrash. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris de mesures particulières d'interdire le Sachar d'un Mikra. Ils se permettent de le percevoir, même si ce n'est pas toujours, même si ce n'est pas forcément une habitude. Du moment que c'est permis, ça veut dire qu'un enseignement Mikra est monnayable, il a une valeur d'argent, ça s'appelle un profit pour l'autre. c'est assaut. Voilà ce que la Mishnah présente. Et c'est là le décalage entre l'un et l'autre, Mikra, Midrash, comme ça que la Gemara l'explique. Sauf que maintenant, la Gemara va demander, qu'est-ce qui fait la différence? Tu m'as dit, l'un c'est permis, l'autre c'est interdit. Mais pourquoi? Mishnah Midrash Telo. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, Midrash? Pourquoi t'as dit c'est assourd de percevoir un sachar? Faut enseigner bénévolement. Je précise, l'Oran, il ramène du Yerushalmi que Srar Batala c'est permis. Même pour le Midrash, si quelqu'un y perçoit le entre guillemets comme un dédommagement pour le temps que ça lui prend, c'est du temps où il aurait pu travailler et gagner sa vie. Et il le consacre à l'enseignement, il peut percevoir un sachar. Parce qu'il ne perçoit pas un sachar pour l'enseignement même, mais pour le temps qu'il y a consacré. Ça, c'est une réserve qu'on voit là-bas dans les Yerushalmi. Ok, maintenant revenons au développement, la question, quelle différence? Si pour ce qui est de Midrash, on apprend dans la Torah que c'est sans sachar tout de suite, pourquoi ce ne serait pas vrai aussi pour Mikra? Telle est la question qui s'annonce dans le texte. Maishna Midrash Telo, pourquoi précisément Midrash s'est exclu de percevoir un sachar, dirent-ils? C'est bien parce qu'il est écrit, Votitiva Hashem Baetail et Lamed Etrem. Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, à moi Hashem a ordonné de vous enseigner, Vektiv. Et il est dit, Re'elimadeti Etrem, Chukim Mishpatim, Kacher Tzivani Hashem. Regarde, je vous ai enseigné des Chukim et des Mishpatim comme Hashem m'a ordonné. Comme Hashem me l'a ordonné, ça veut dire sans rémunération. Comment je sais que c'est sans rémunération? Parce que ça veut dire, je me suis appliqué à faire à la lettre comme Hashem m'a ordonné. C'est ça, Kacher Tzivani Hashem. Or, c'est sûr qu'Hachem n'a pas ordonné d'enseigner avec un sachar. Ça rime à rien. Qu'Hachem m'a pitom, Hachem va me demander d'enseigner que moyennant sachar. Non. Et la maille, plutôt le contraire. Qu'Hachem m'a demandé, et je me suis appliqué à faire comme Hachem m'a dit. Enseigne tout court, sans rémunération. Ça, c'est d'après l'oral. Ou bien le Tosfot, ils disent, Moshe Rabbeinu, il était achir. Est-ce qu'il avait besoin d'une rémunération? Il était riche. Alors, il n'y a pas besoin. C'est invraisemblable. Donc, c'est sûr qu'il n'a pas pris de rémunération. Donc, comme moi, j'enseigne Torah sans Chukim Mishpatim, les lois de la Torah sans rémunération, alors vous aussi, Ma'ani Bechinam Afatem Nami Bechinam. C'est ce que Moshe Rabbeinu fait allusion au Béni Israël. Dans les mots Re'e, regarde ce que moi j'ai fait. Ça veut dire, prends exemple de moi. Moi, je vous ai enseigné la Torah comme Hachem m'a ordonné sans rémunération aucune. Alors vous aussi, prenez exemple de moi, c'est ça, c'est ce que moi je fais. Prends exemple de moi. Et donc, Mani Bechinam, Afatem Nami Bechinam. Si quelqu'un enseigne, ça doit être Bechinam. Le Monagma, Mikra Nami Bechinam. Mais à ce titre, Mikra tout autant. Quoi, Moshe Rabbeinu, il a parlé que de Chukim ou Mishpatim, ça peut être que les sujets de Torah Shebalpé. Pourquoi Chukim et Mishpatim, ça ne peut pas comprendre Torah Shebirtav? Pourquoi pas autant? Ça devrait être autant interdit? Pourquoi tu dis Mikra s'est permis de percevoir un sachar? Réponse Rav Amar, Srar Shimur, Verav Yochanan Amar, Srar Pisuk Tamim. En fait, l'un comme l'autre répondent qu'on enseigne, on ne prend pas un sachar pour l'enseignement proprement dit, mais pour un accessoire. Le Mikra, ça s'adresse aux petits-enfants, en général. Donc quand on dit qu'on veut percevoir un sachar pour l'enseignement de Mikra, c'est parce qu'on a affaire à un public d'enfants en bas âge, qu'il faut encadrer. Il faut faire la garderie un peu, entre guillemets. Il faut les garder à leur place, qu'ils ne cherchent pas à s'évader pour aller passer du bon temps à l'extérieur. Alors, c'est ça qu'on rémunère. C'est pas l'enseignement du Chumash, Bereshit, Bara, Elohim. Non, tu payes l'enseignant qui gère l'enfant pour qu'il soit à l'étude. C'est ce qu'on appelle Srar Shimur. Shmira, c'est l'encadrement des enfants qui doivent être à l'étude. Rabbi Yochanan Amar Srar Pisuk Tamim. C'est le sachar, non pas de l'enseignement du texte, mais de la manière comment on coupe et comment on chante le texte selon les Tamim. Ils avaient l'habitude d'enseigner avec les Tamim le Mikra. Et donc, le Pisuk Tamim qui permet de rythmer la lecture par des Tamim et de chanter avec la mélodie. Et pas seulement, ça permet aussi des fois de mieux comprendre le texte parce que ça fait, ça, tu apprends à travers ça comment voir les intonations, ça aide à comprendre ou bien la coupure des phrases dans un même passouk aussi, c'est lié au tamim. Ça aide aussi à la compréhension. Tout cet ensemble qui est lié au tamim, on appelle ça pisouk tamim. Eh bien, ça, on a le droit de percevoir un sachar parce que, en deux mots, je vous le dis d'avance, parce que Rabbi Yochanan considère que ce n'est pas partie intégrante de la Torah. Ça n'a pas été donné à Moshe Rabbeinu Har Sinaï. Plus tard, ça a été mis en place par Ezra et les Anshei Knesset HaGdola. Et donc, comme ça, certains Mefarshim précisent. Et donc, c'est ce qui fait que, pour Rabbi Yochanan, ça ne fait pas partie de la Torah, donc je peux percevoir un sachar. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a dit ? J'ai enseigné Torah, Chukim Mishpatim, c'est-à-dire la Torah d'Hachem, bénévole, faites autant. Mais Mikra, qui est un accessoire, qui est Pisuk Tamim, qui n'est pas la Chale Moshe Mishina, qui ne fait pas partie de l'enseignement que je vous ai légué, qu'il faut retransmettre, comme moi gratuit, vous aussi gratuit. Ça, c'est déjà un accessoire en plus. Ça, tu peux demander un sachar pour ça. Donc, c'est ce qui fait que pour l'enseignement du Mikra, on peut percevoir un sachar, c'est lié au Pisuk Tamim. Comme ça, nous dit Rabbi Yochanan, donc chacun son approche. C'est Nan. La Gemara revient à la Mishnah, on a dit Lo Yelamdenu Mikra. Le Madir Ana ne peut pas enseigner au Mudar Ana du Mikra. Parce que, comme on a dit, rémunération. Il est question de rémunération, puisqu'on a, on est dans un endroit où on s'autorise de prendre un sachar, comme on l'a vu. Et donc, ça s'appelle un service normalement payant. Je te le fais gratuit, c'est une Ana, c'est assour. Pour Midrash, ça passe, puisque c'est payé, c'est pas payant. Bish, la malemandamas, rar, pisuk, tamim, haïnu, de l'oïn, medenu. On comprend bien, d'après Rabbi Yochanan, que le sachar dont il est question lorsqu'on enseigne Mikra, c'est par rapport au pisuk, tamim. C'est pourquoi je ne dois pas enseigner un moudar. Parce que même un moudar adulte, a priori, on parle d'un moudar adulte, j'ai fait un éder qui ne puisse pas profiter de moi, et bien maintenant, je vais lui enseigner du Chumash, mais je vais lui apprendre avec les tamim. Et donc, c'est payant normalement. C'est pourquoi c'est assour. Et là, le mandamas, rar shimur. Mais la vie qui dit que c'est rar shimur, qui fait qu'on a le droit de percevoir un sachar. Gadol bar shimuru. Si j'ai fait un vœu sur un personnage, en général, c'est un gadol. Un adulte ou un enfant qui a même bar mitzvah tout juste, tu crois qu'on a besoin de rar shimur? Rar shimur, c'est pour les jeunes enfants. Ben Chamesh, la mikra. À l'âge de 5 ans, on le fait rentrer au cheder pour apprendre le mikra. Ben Esser, il est déjà à la Mishnah. Donc le Mikra, c'est pour les petits jeunes. Les petits jeunes, d'accord, il faut se rachimour, c'est rémunérant. Mais un gadol, il n'y a pas besoin de chimour. Il n'y a pas de quoi justifier une rémunération. Mikra devient comme Midrash, c'est assour de percevoir un sachar. Et donc si c'est sans sachar, ça devait être permis. Pourquoi la Mishnah a dit on ne peut pas enseigner le Mikra? Donc là, on a un problème selon Rav. Selon Rav, que c'est Srar Shimur qui justifie le Sachar dans Mikra, et ça uniquement, et pas Pisuk Tamim. On verra que Rav pense que Pisuk Tamim, c'est pas Deoraita. Pardon, c'est Deoraita. Comme c'est Deoraita, pour ça, ça fait partie de la transmission depuis Moshe Rabbeinu. Si bien que, ça aussi, c'est comme l'enseignement de Torah, tu peux pas percevoir un Sachar. Alors, sur quoi tu justifies le Sachar selon Rav uniquement Shimur. Shimur, un adulte. Tu lui fais la garderie quand tu enseignes un adulte, ça va pas. Donc il n'y a aucun sachar même dans Mikra. Ça devrait être permis. Pourquoi l'oyelam deinu et là le mandamasra shimur gadol bar shimuru, ça devrait être permis. Réponse bekatan. Eh bien, devine que la Mishnah parle d'un katan. Le moudar, il est katan. Quel problème? J'ai fait un vœu que telle personne ne puisse pas profiter de moi. Il s'avère que c'est un katan. Eh bien, je ne peux pas lui enseigner Mikra. Parce qu'enseigner Mikra à un enfant, c'est payant normalement. Ah, vous allez dire, mais l'enfant, on peut le laisser manger du chazir. Katan ochel nevelot en beddin metsuvin africho. S'il mange de son propre chef, sauf si je suis son père, que j'ai un devoir d'éducation, mais le beddin, il voit un enfant comme ça manger, on le laisse. Donc là, il veut profiter, alors qu'il est moudarana, on devrait le laisser. Oui, mais pour autant, il y a un din, dit le ran, que je ne peux pas lui donner à manger, mais il y a daim du issour. Un enfant, on le laisse, si ce n'est pas mon fils. Mais je ne peux pas non plus lui donner le issur beyadaïm. Lof safinan neu beyadaïm. Et là, c'est ce que tu es en train de faire. Quand tu lui enseignes, tu lui donnes un profit qui vaut, qui représente une nana, puisque c'est payant normalement. Et c'est pourquoi tu ne peux pas enseigner à cet enfant le mikra. Mais le moudarana devine qu'il est katan. Parce que qui dit mikra, avec sa spécificité de rémunération, ça parle d'un public katan, forcément. C'est de ça qu'il s'agissait. Demande à Gmara Ibe Katan si le Moudar dans notre Mishnah il est Katan et Maseifa. Lis la suite de la Mishnah Aval Melamed et Banav. Mikra. Mais néanmoins, le Madir peut enseigner le Mikra au fils du Moudar. Ça, ça passe, disait la Mishnah. Attends, Katan Barbanimou, si le Moudar il est Katan, comment il a un fils? Peut-il avoir des enfants? Il y a ici quelque chose qui manque, un élément de transition qu'il faut reconstituer. Voici comment réellement faut comprendre la Mishnah. L'Oyalam de Nomikra, s'agissant d'un Katan, c'est là où ça prend son sens, s'agissant d'un Katan, où il y a rémunération à prévoir normalement, là ça devient un sourd enseigner Mikra. Mais Imaya Gadol, si le Moudar était Gadol, alors Melamdo, je peux lui enseigner Mikra parce qu'il n'y a plus de Srar Shimur avec un Gadol. Et pas seulement à lui. Lo ou le Banav, je peux enseigner Mikra. À lui, je peux, parce qu'il n'y a pas de Srar. Et à son fils, il y a pourtant Srar Shimur. Son fils, il a 5-6 ans. Il y a Shimur, donc il y a Srar Shimur. Et quand même, c'est permis. Pourquoi c'est permis pour Beno? Le Ran nous dit, parce que, bien qu'il y a besoin de Shimur, et donc ça mériterait une rémunération, c'est pas sourd, pas plus que donner à manger aux enfants du Moudar. Je donne un profit au fils du Moudar, tant que c'est pas au Moudar lui-même, c'est rien du tout. Comme ça, Laura m'y répond. Et là, ça fait la lumière sur le problème que Laura n'avait... que le Rachash, vous avez dit en lisant la Mishnah, j'avais pas encore vu ce Ran, mais à l'époque, le Rachash, vous l'avez dit, il a son explication, ça colle pas avec ce Ran. Mais ce que je découvre dans ce Ran, c'est qu'on peut comprendre comme ça le Tosfot qui a suscité l'étonnement du Rachash. Tosfot, sur la Mishnah, disait, le père peut dire, moi je paye pas. Il peut ne pas payer pour Srar Limud de son fils. Demande le Rachash, mais c'est pas vrai, c'est une halakha que si tu enseignes pas à ton fils, tu dois payer un melamed. Comme ça, c'est le Rambam, le Tour Shulchan Aruch, etc. Et alors, il va dans son malar, mais moi, enfin, il se démarque de Tosfot. Mais moi, je pense que d'après Tosfot, il suffit de dire ce que le Ran a dit. Le Tosfot voulait dire, peut-être que tu dois, vis-à-vis du ciel, tu dois prendre un melamed. Et maintenant, si quelqu'un s'est dévoué de lui-même pour enseigner à ton fils, qui dit que tu lui dois de l'argent? Si tu as négocié avec lui, tu lui as dit, je t'engage pour enseigner à mon fils, je t'engage pour faire la peinture de la maison, ben, tu dois payer. C'est Sri Rout d'un poème. T'es chayav. Il n'y a pas de doute. T'es chayav, midine mamona. Tu dois un sahar à ce monsieur que t'as engagé. Mais si j'ai engagé personne, de lui-même, il vient enseigner à mon fils. Parce que vis-à-vis du ciel, j'ai l'obligation de prendre un enseignant. Ça veut dire que je lui dois de l'argent. T'as enseigné à mon fils, je t'ai rien demandé. J'ai pas convenu avec toi un contrat. Je te dois rien. Midine mamona, je te dois rien. Tu serais pas venu, j'aurais dû solliciter quelqu'un et payer. D'accord, c'est mon devoir vis-à-vis du ciel. Mais pour autant, ce que tu as fait, ça ne s'appelle pas que tu m'as donné de l'argent. C'est ce que je ressens dans les Rishonim et Tosfot et le Ran. Et pour ça, le Ran dit, qui a gagné ici? L'enfant. On lui a fait un service qui est payant normalement. Enseignement de Mikra, ça vaut de l'argent, puisqu'il faut aussi l'encadrement, c'est du travail, etc. pour asseoir l'enfant et le motiver à travailler, qu'il ne s'évade pas, etc. Shimur, c'est payant, mais je lui fais bénévole, ça s'appelle un bénéfice à l'enfant. Profit à l'enfant. Mais c'est pas lui le Moudar, c'est son père. Donc c'est comme si je donne un sandwich au fils du Moudar. C'est pas un problème. C'est ce que Laurent répond. Métis. On objecte. Donc on a ici une machloket, Rav et Rabbi Yochanan. Comment comprendre la différence pourquoi Mikra, on peut percevoir un sakhar, c'est-à-dire par rapport à quels des accessoires on justifie une rémunération. Est-ce le Shimur ou Pisuk Tamim? Très bien. Métivé, on objecte. Une braïta nous dit Tinokot lokorin batechila ve shabbat. Les enfants ne les fait pas apprendre le texte pour la première fois, shabbat. Et la shonin barishon. Mais on peut faire révision, même si c'est une première révision. Bish le malemandamas rar pisuk tami maïnoden korin batechila ve shabbat. Si je dis que la rémunération, quand j'enseigne aux enfants, c'est par rapport à pisuk tamim. Or ça veut dire que ça justifie une rémunération. Shabbat, on ne doit pas percevoir de rémunération. Je ne peux pas faire quelque chose qui me gratifie dans Sakhar. Sakhar, Shabbat, c'est assaut. C'est pourquoi on ne fait pas l'enseignement de la première lecture, parce que c'est là où il faut mettre le paquet. C'est là où il faut s'appliquer, il faut que ça rentre dans la tête de l'enfant, comment on lit, on chante le pasouk, etc. Ah là, d'accord. Mais la deuxième fois, ça roule et il n'y a pas de sakhar vraiment. Le sakhar est justifié surtout par rapport à la première étude. C'est là où il y a Pisouk Tamim et c'est là où on peut entendre la différence et admettre une différence entre la première étude ou bien la révision. Et là, le mandamar sera shimur. Mais d'après la vie qui dit que ce qui justifie une rémunération dans Mikra, c'est surtout l'encadrement des enfants qui soient à l'étude. Amayen korin batechila beshabbat. Pourquoi on ne peut pas leur enseigner beshabbat batechila? Ve'amay shonin barishon. Et pourquoi oui, révision, même première, oui. Ça veut dire en d'autres termes, dit le Ran, la question pourquoi là comme ça et pourquoi là comme ça? Pourquoi deux poids, deux mesures? Mais schar shimur, il y a besoin. Haïka schar shimur de Shabbat. Que ce soit le chol ou Shabbat, tu crois que l'enfant, ça change? Pour lui, il a envie de s'évader, de s'amuser dehors. Et moi, je dois l'encadrer, l'encourager, le maintenir à sa place pour qu'il soit à l'étude. Que ce soit Shabbat ou le chol. Donc le sakhar, il est justifié pour une étude de Shabbat ou du chol. Et alors, comment là, tu entends la différence de la braïta? Si la braïta fait une différence, c'est qu'elle résonne en termes de pisuk tamim. Souk Tamim, première étude, première lecture, c'est là où il faut mettre le paquet, c'est prouvant, c'est là où ça rémunère par rapport à Souk Tamim. Mais la deuxième lecture, non. Mais si c'est Mishum Srar Shimur, Srar Shimur, il y en a autant pour Shabbat que le Chol. Alors pourquoi c'est permis de lui enseigner? Je rappelle, on a l'impression que tout ce sujet de la Braïta, c'est par rapport à une problématique de Srar Shabbat. Je ne peux pas faire quelque chose Shabbat rémunéré. Je viens, je mets la table pour une bar mitzvah, on me paye, normalement c'est assour. Il faut trouver la bonne combine pour que ce soit permis. Je fais aucune melacha, je mets la table pour une seudat shabbat, seudat mitzvah, ce que tu veux, c'est assour, schar shabbat. J'enseigne, si c'est rémunérant, c'est assour. Et donc, quand est-ce que c'est rémunérant, hein? Première lecture, oui, deuxième, non. Ça c'est une différence qui s'entend si je raisonne en termes de schar, de pisuk tamim. Mais si je raisonne en termes de schar shemur, les enfants, il faut les maintenir à l'étude, que ce soit Shabbat ou le Chol. Donc il y aura toujours un sakhar. Alors pourquoi c'est mieux la deuxième lecture? Pourquoi c'est permis, deuxième lecture? Question. Réponse. Veli ta mère, et d'après toi, sera pisouk be Shabbat mi asir? Le sera pisouk Shabbat, est-ce que ça commence bichlal? Tout le problème du sakhar ici. Havlahi! Tout le sakhar, quel qu'il soit, que ce soit pisouk ou que ce soit shimur, l'un ou l'autre, peu importe. Tu crois qu'il y a un problème? Même si tu raisonnes en termes de Srar Pissou, tu me dis, première lecture, c'est problématique. Alors non. Mais je ne vois pas de problème, moi. Parce que c'est Be'avla. Havla, c'est le concept qu'une rémunération du Shabbat, quand elle est englobée dans une rémunération globale, par exemple, on me paye à la semaine. Le serveur, là, il est de service toute la semaine. Au restaurant. Shabbat, faut assurer une bar mitzvah. Allez, va mettre la table là-bas. Je te paye. Je te paye pas pour Shabbat. Je te paye à la semaine ou au mois. C'est moutard. C'est pas srar Shabbat spécifique, c'est moutard. Donc c'est des lois qu'on trouve là-bas dans ma secret Shabbat. Et donc, à ce titre, je vois pas du tout le problème. Donc faut voir la braïta différemment. Rien à voir avec le srar Shabbat. Alors, voilà que d'Etania, on ramène la source à ce sujet. D'Etania, voilà une braïta qui dit. Donc, Avla, Mishra, Shari. Avla, c'est permis. Netanya, comme on trouve dans une braïta, Sorer, Tapoel, Lishmor, Tatinok. Celui qui engage un employé pour avoir un œil sur un enfant. Quel enfant? Pas un babysit. C'est les enfants qu'on faisait naître et qu'on élevait dans des cours aménagés spécialement à Yerushalayim, dans des conditions où l'enfant ne peut pas contracter la Toumat Met. D'aucune manière. Il y avait tout un aménagement, etc., avec un sol surélevé. Bref, tout ça pourquoi? Parce qu'on voulait que quand on puise l'eau de Paradouma, ça se fasse avec des gens qui n'ont pas pu devenir tamés. Pourquoi on a fait ces khumrot? C'est toute une histoire ailleurs, c'est pas le sujet. Alors maintenant, on a payé quelqu'un pour surveiller les enfants, qu'ils ne soient pas exposés à la Touma des morts. On a payé quelqu'un, l'Ishmor et Tapara, c'est Paradouma. Si la Paradouma, elle a été... elle a tiré une charrue, on a mis sur elle un poids, etc. On l'a fait travailler n'importe, elle est devenue pas saoule. Je paye quelqu'un qui surveille la paradouma, ça vaut une fortune. C'est tellement rare. Mais je veux pas qu'elle soit rendue psoula parce que quelqu'un a choisi de lui mettre un attelage. Alors, je paye un chômeur. Ou bien, l'Ezraïm. L'Ezraïm, disent les Rishonim, Rashi, Roche, c'est un champ qui commence à mûrir avant un autre. et on a intention de prendre là-bas le homer pour akravat haomer de Pessah ou le blé pour jeter alechem de Shavuot, parce que c'est les prémices et donc c'est un champ précoce qui nous intéresse, alors on met un gardien pour superviser. Maintenant, la Braïta nous dit En notin lo schar Shabbat. On ne lui donne pas de sachar pour la shmira du Shabbat. Je lui donne le sachar pas pour Shabbat, parce que schar Shabbat, c'est assur. Les pillards, c'est pourquoi il m'a vu non chayav achar yutan. S'il y a eu Aveda, certainement c'est le blé. Ou bien, dans le cas de pas l'enfant, disons le blé ou la vache, elle s'est perdue. Ben, je ne suis pas chayav, parce qu'un shomer chinam n'est pas chayav sur Aveda. Veimaya srir Shabbat, srir Chodesh, srir Shana, srir Shavua. Et s'il était engagé à la semaine, c'est ça srir Shabbat. Ou bien au mois, srir Chodesh, srir Shana, à l'année, srir Shavua pour une septaine d'années. Alors, noteno srir Shabbat. On peut lui payer pour Shabbat. Je te paye à la journée un certain tarif, mais pas pour une seule journée. Je te paye pour les sept jours de la semaine. Un prix global, cette fois ce prix. C'est un prix global. Shabbat, il est Be'avla, c'est Moutar. Ou au mois, c'est la même chose. Les quatre Shabbatot du mois, ça passe Be'avla, c'est Moutar. Les Fikar, c'est pourquoi Imavdo, Chayav Bachar Yotan. S'il y a eu un pépin, ça s'est perdu. Bah, le chômeur, il est responsable parce qu'il est chômeur Sachar. Et chômeur Sachar est Chayav sur Gneva Vaveda. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette Braïta? Le concept de Avla, je peux rémunérer pour un service du Shabbat quand c'est dans une paye globale. Et par conséquent, pour le Sachar de l'enseignement, le Mélamed qui enseigne le Mikra aux petits-enfants, il leur enseigne, s'il leur enseigne le Shabbat, c'est qu'il leur enseigne aussi en semaine. Donc le Sachar du Shabbat, ce n'est pas un problème. Donc ce n'est pas comme ça qu'il faut aborder la Braïta. Et la Gabé Shabbat, Aïnou Tamad et Enkorin Batechila. Seulement voilà la raison. Pourquoi dans la Braïta on dit que la première étude avec un enfant, non. On n'aborde pas un nouveau texte de Mikra, un Shabbat avec les enfants, rien à voir avec le sachar de l'enseignant. C'est Mishum de Yifnu Avaton de Yanouk et les mitzvata de Shabbat. C'est pour que puissent s'adonner les pères des enfants à la mitzvah du Shabbat, c'est-à-dire la mitzvah du Honek Shabbat, de passer un moment agréable avec les enfants, comme c'est écrit dans le Ran, qu'il est mishtaché avec les tinokot. Et si on doit être à l'étude comme tous les jours, va à l'école, c'est contraignant. C'est... Alors le père, il est derrière son fils pour être à l'étude. C'est plus le Onek Shabbat, c'est plus la même sérénité, c'est plus le même relationnel, c'est plus l'ambiance de jouissance familiale, etc. Alors on passe à côté de la mitzvah du Shabbat. C'est pourquoi Chachamim ont interdit de prendre les enfants à l'étude pour une nouvelle étude Shabbat. Tandis que si c'est juste la révision, c'est beaucoup moins contraignant, c'est plus, ça va. Il y a plus de souplesse avec ça, et le père est moins derrière à booster l'enfant. On peut aussi partager un moment agréable du Shabbat, sans faire que étudier. Point. Ça, c'est la raison de la Braïta, et donc ça n'a rien à voir avec le Sra'ar Limoud. Et donc, il n'y a plus aucune objection sur Rav. Demande la Gemara, ou pardon, dit la Gemara Veibaitema, ou encore, je peux dire, pour une autre raison. Mishum de Beshabbata, Achlin, Veshatin. Shabbat, on mange et on boit plus qu'en semaine, et aussi, pas seulement plus, mais aussi différent. Et le monde est lourd sur eux, c'est une expression qu'on ne pourrait pas traduire littéralement, mais qui a comme signification tout devient difficile pour eux. Pesant, ça veut dire devient difficile pour eux. Que Amar Shmuel, comme Shmuel a dit, Shinui Veset, changement d'habitude, Trilat Roli Me'ahim, c'est le début des maladies des intestins. Ça fait des dérèglements. Dès que tu changes d'habitude, et surtout quand c'est une habitude alimentaire, brutale, changement brutal, ça peut dérégler certaines choses et faire qu'après, l'enfant, eh ben, c'est beaucoup plus difficile pour lui de se mettre à l'étude. C'est pourquoi Shabbat, on épargne l'enfant, et il y a révision, c'est plus light, mais nouvelle étude, c'est pas le moment. C'est une deuxième raison. Donc c'est lié à l'étude en elle-même, c'est pas du tout une question de rémunération, et du coup, c'est plus notre sujet, ça nous concerne pas. On a réglé le problème. Maintenant, la Gemara veut savoir pourquoi Rav n'admet pas le point de vue de Rabbi Yochanan et inversement. Pourquoi chacun dit qu'est-ce qui justifie la rémunération de Mikra? Pourtant, Moshe Rabbeinu nous a dit on n'enseigne pas Torah rémunérant, c'est bénévole comme moi j'ai enseigné bénévole. Et donc, pourquoi Mikra c'est différent? Ou Shimur, ou bien, pour l'autre avis, c'est Pisouk Tamim. Pourquoi chacun n'a pas pensé à l'idée de l'autre? Ulman d'Amasra Pisouk Tamim. Maitama l'Amasra Shumur. Pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas dit comme Rav? Réponse, quand ça va, banote. Mikabayan Shumur. Est-ce que les fillettes ont besoin de Shumur? Shumur, c'est pour des petits-enfants en bas âge à qui on apprend le Chumash. D'accord. Or, le sujet de la Mishnah s'adresse à Mikra, public, enfant. Mais enfant, garçon ou fille? Probablement. Et si j'enseigne à sa fille et que la fille, elle a 5-6 ans, tu crois qu'elle a besoin de Shimur? La fille, elle est assise, elle reste à sa place. Les garçons, ils sont de nature à vouloir sortir, à laisser s'évader et passer du bon temps dehors. C'est eux qu'il faut encadrer et encourager à l'étude. Mais les petites filles, elles sont... Ou bien, certains rishonim me disent, les petites filles ne sont pas yatsaniyot, de nature, elles ne sont pas enclins à sortir. Elles sont comme ça dans leur nature d'être plus calmes, et moins à la recherche d'une activité, plus à l'étude, plus chez elles, à l'intérieur, etc. Donc elles ne sont pas de nature vouloir s'évader et sortir. Ou bien parce que c'est un principe que Kol Kevuda Bat Meler Penima, par devoir de Tzniut, toute Bat Israël a tendance à rester à l'intérieur plutôt que de sortir et s'évader. Et même une petite fillette, elle est éduquée à ça, et donc, depuis le plus jeune âge, vraisemblablement, elles sont habituées à rester à l'intérieur, elles ne sont pas faites pour l'extérieur. Et par conséquent, il n'y a pas besoin de chumour. Elle reste là, il n'y a pas besoin d'encadrement. Ça, c'est donc pour ça que cet avis, Rabbi Yochanan n'a pas entendu le point de vue de Rav. De dire que dans la Mishnah, Mikra, il y a rémunération, c'est pourquoi il faut penser à Niyomouda. Et quelle est cette rémunération? Parce que c'est un sakhar lié au chumour. Mais alors, pourquoi pour une fille, je ne peux pas enseigner? Ça devrait être permis puisqu'il n'y a pas de sakhar. Pour les filles, on ne demande pas de sarah, puisqu'il n'y a pas de chimour. C'est purement pour l'étude. L'étude, ce n'est pas rémunérant, c'est un sourd. Le mandamansrach, j'ai lu d'après la version qui est devant nos yeux, mais le Ran, il a une autre version, donc je ne veux pas rentrer pour ne pas m'attarder. Donc ça, c'est une démarche. La démarche de Rabbi Yochanan, pourquoi il a refusé le point de vue de Rav. Maintenant, pourquoi Rav a refusé le point de vue de Rabbi Yochanan? Ou le mandamansrach, chimour. Pourquoi il n'a pas admis l'idée de Pisuk Tamim, Maitama lo Amasrar Pisuk Tamim, Kasavar Pisuk Tamim de Raitaou? Rav, il pense que Pisuk Tamim, on le tient de Moshe Rabbeinu, les Moshe Missinaï, il s'est retransmis. Et donc, ça fait partie de l'enseignement de la Torah. Et comme pour l'étude de la Torah, le texte lui-même, tu n'as pas le droit de percevoir un Sakhar, ou Rukim ou Mishpatim, ça comprend tout. Le texte. Et ça comprend la coupure, le rythme des ta'amim et la mélodie. Tout ça aussi, ça fait partie. On l'a reçu du Har Sinaï. Ça fait partie de la Torah. Et donc, tu ne peux pas percevoir de sakhar. Si oui, c'est que pour le shimur. De Amaravi Kabaravin Amarav Chananel Amarav. Oh, Amarav. Il y a un Talmid qui a dit au nom d'un autre, au nom de Rav. Mande Amar. Maindirtiv, pardon. Que signifie le pasuk dans Sefer Nehemia? Vaikreu Besefer Torah Ta'elokim Mefurash Vesom Sechel Vayavinu Bamikra. On va décortiquer ce passage. Vaikru Sefer Torah Telokim Zemikra. Ils ont lu dans le Sefer Torah, littéralement la lecture elle-même, le texte. Meforash, que veut dire Meforash? Zetargum, le texte commenté. C'est la traduction du Targum Onkelos. Tiens, ça existait déjà à l'époque de Ezra, ce passage parle de Ezra. Ezra a souffert, oui, ça existait parce que le Targum de Onkelos, que nous on tient depuis quand? Onkelos, Hager, c'est l'époque de Tanaïm, Rabbi Elazar Rabbi Yeshua. Et il a établi le Targum, en fait, ce n'est pas une nouveauté. Il nous l'a reconstitué parce qu'on l'avait perdu. Mais initialement, c'est bien antérieur à son époque. Déjà à l'époque de Ezra, on connaissait le Targum. Et mieux que ça, dans ce passage, a priori, ça s'entend que le Targum existait, les Moshe Missinaï. Ça fait partie de l'ensemble Torah. Comme on est en train de dire que de ce pasouk, ça s'entend que le pisouk tamim, c'est de Oraïta, comme on va le prouver, eh ben, c'est autant une preuve pour Targum. Vesom Sechel, Elou Apsukim. C'est quoi Vesom Sechel? On a mis sa compréhension. C'est les psukim, c'est-à-dire la coupure des psukim. Un pasouk, il y a un certain nombre de mots, c'est une phrase bien définie. Et dans ce pasouk, il y a des fois deux, trois expressions. Il faut savoir couper les psukim. C'est ça, Vesom Sechel. Ils se sont appliqués à bien couper les psukim. Vayavinu, c'est quoi la notion de Vayavinu? Dans cette étude, il y a eu Havana, ça veut dire Vayavinu Bamikra, pardon, c'est quoi? Zepisuk Tamim. C'est la coupure des Tamim, pas des psukim. C'est les différents tamim, la mélodie, etc. Ve'amrela, il y en a qui disent Elou Amasorot. Il y en a qui disent que c'est la Masoret, comment on lit des mots ou des mots qui sont modifiés dans la, entre la lecture et l'écriture, etc. Toutes sortes de choses spécifiques et particulières, entre guillemets, anomalies du texte. Ce n'est pas par hasard, c'est voulu, ça induit toujours quelque chose. Mais les passages où il y a des choses qui ne sont pas comme on est habitué à voir, c'est ce qu'on appelle les masorotes, les indications spécifiques, ponctuelles dans chaque passage où il y a des choses à signaler. Ça, c'est ce qu'on a appelé Vayavinu Bamikra. Donc deux versions. Ou Vayavinu Bamikra, c'est Pisuk Tamim, ou bien c'est Masorot. Mais Rav, il a dit Pisuk Tamim, mais ça va de pair avec ce qu'on a dit en son nom. Lui, il ne pense pas comme Rabbi Yochanan, le Inyan de Pisuk Tamim. Pourquoi ? Tu ne peux pas demander un Sakhar pour Pisuk Tamim, puisque ça fait partie de la transmission qui remonte à Moshe Rabbeinu. Ezra, il a lu, il s'est appliqué dans tout ça, c'est que ça fait partie de la Torah de Moshe Rabbeinu, y compris Pisuk Tamim. Et donc, il n'y a pas de Sakhar pour ça, pas plus que pour le texte, pas plus que pour Hukim ou Mishpatim. Mais Rabbi Yochanan y pensera nécessairement que Pisuk Tamim, ce n'est pas les Moshe Misinaï. Et donc, comment il traduira ce pasuk de Ezra ? Eh bien, dit Tosfot, il sera du côté de ceux qui disent Elou Amasorot. Vayavinu Bamikra, ce n'est pas Pisuk Tamim selon Rabbi Yochanan, c'est Masorot. Mais Pisuk Tamim, c'est des Rabbanan. Ok, point. Des Rabbanan, et certains disent que c'est Ezra qui l'aurait institué, je ne sais pas, mais je crois que certains disent ça. Mais en tout cas, ce n'est pas depuis Moshe Rabbeinu. Et donc, on peut l'enseigner de manière rémunérée. Point. Amar Rabbi Yitzhak.
Amasorot, si vous comprenez comment ? Amasorot, alors, il faut le comprendre comment ?
Non, comme on a dit. Mais maintenant, il y a tout ce qui va suivre, certains disent que c'est le développement de Masorot. Tout de suite, on va voir. Mais c'est Marc Loquet. Tosfot nous disent que la Marc Loquet, Rav et Rabbi Yochanan. Et justement, c'est est-ce que Vayavinu Bamikra, je traduis Pisuk Tamim ? D'où la preuve que Pisuk Tamim, ça revient à Moshe Rabbeinu, c'est Minatora. Bien non, c'est que Masorot, mais Pisuk Tamim n'est pas Minatora. Maintenant, certains disent que ce qui va suivre, ça se rattache à ses commentaires sur Masorot. Il y a différentes indications particulières qu'on a d'une transmission de génération en génération, et il y a différents types qu'on va voir. Tout ça, ça rentre dans Masorot d'après le Méri. Amar Rabbi Yitzhak, Mikra Sofrim, Itur Sofrim, Kariyan velo Ktivan, Ktivan velo Kariyan, Halakha le Moshe Misinai. Toutes ces précisions concernant le texte du Tanakh, que ce soit Mikra Sofrim ou Itur Sofrim, Mikra Sofrim, c'est la manière de ponctuer, comment on ponctue les mots du Tanakh. Il y a des règles, il y a des indications spécifiques sur tel ou tel terme, etc. Tout ça, on l'a reçu à la Halakha le Moshe Misinai. Et alors, on dit, Mikra Sofrim, c'est en fait ce que nous ont enseigné les Anshe Knesset Agdola, c'est eux qu'on nomme Sofrim. Mais c'est eux qui nous ont établi clairement comment la lecture, les ponctuations, etc. Ça, c'est Mikra, contient des Sofrim, eh bien, c'est à la Halakha le Moshe Misinai, ils n'ont rien inventé. C'est retransmis depuis Moshe Rabbeinu. Donc, la manière de lire le texte avec les ponctuations spécifiques, avec des règles particulières, tout ça, c'est retransmis depuis Moshe Rabbeinu. Itur Sofrim, c'est quand on a embelli le texte en rajoutant ou en supprimant ou avec une retouche du texte, entre guillemets. Là où il y en a, c'est aussi retransmis depuis Moshe Rabbeinu. C'est pas que nous, on s'est permis, on n'a rien retouché. Mais c'est que Moshe Rabbeinu nous l'a appris, voilà, ce mot, il est en plus et il y a des retouches. Vekarian veloktivan. Les mots qui sont lus sans être écrits dans le texte. Il existe des références où il y a des mots qui ne sont pas dans le texte, mais on a reçu transmission que ça doit être lu. Et comme ça, nous ont appris les Sofrim, Anshe Knesset Agdola. Eh bien, ce n'est pas de l'invention, ça remonte à Moshe Rabbeinu. Ktivan veloktivan. Les mots qui sont inscrits mais qui ne sont pas lus. Ça existe aussi. Ça aussi, c'est la Halakha Moshe Misinai. Donc, toutes ces indications spécifiques au niveau du texte, c'est à la Halakha Moshe Misinai, et le Meiri dit que c'est ça que Rav Yosef qui développe ici, ce qu'on a appelé en un mot plus haut les Masorot, la retransmission. Maintenant, Mikra Sofrim, on donne quelques exemples. Pour chacune de ces catégories, on donne des exemples dans le Tanakh. Par exemple, Eretz Aretz. Comme ça, le Bar Hilegores, ça veut dire que des fois, le mot Eretz, c'est avec un Segol, et des fois, c'est avec un Patar, pour le premier Aleph. Ben, il y a une massorette pour ça. C'est pas par hasard. Il y a des règles, etc. Ou bien, Shamaïm Mitzrayim. Vous devez avoir un Aleph pour le Shamaïm ou le Mitzrayim. Et là, il n'y a pas le Aleph. Donc ça aussi, tu sais comment le ponctue. Je rappelle, dans le Sefer Torah, il n'y a pas de ponctuation. Comment c'est lié? Parce que nous, on a pris au Chumash ponctué. Oui, mais qui nous a donné les ponctuations? Ben, ça fait partie de la massorette. Et c'est ça qu'on a dit, que c'est à la Halakha Moshe Mishinaï, que voilà, le mot Shamaïm se lit comme ça, malgré qu'il n'y a pas le Aleph qui résonne en Patar. Idem pour Mitzrayim. Et ainsi de suite, ce sont que des exemples parmi tant d'autres. Ensuite, Itur Sofrim, c'est quoi? Achar Tavoru, Achar Telech, Achar Teasef, Kidmusarim, Achar Noganim, Tzitkatra Karel. Alors, tous ces cas, c'est le mot Achar qui est en plus. On aurait pu dire Vetavoru. D'accord? Vesadou Libechem, Achar Tavoru. Pourquoi Achar Tavoru? Vetavoru. Restez là, prenez un bon repas. Et après, vetavoru, et vous passerez, vous continuerez votre route. Pourquoi achar tavoru? Le mot achar, on aurait pu l'éviter, il est en plus. À chaque fois ici, ça s'appelle itur sofrim. Pour embellir le texte, on a rajouté. C'est ça, itur milashon atara, couronnement, embellissement. On a orné, mais c'est pas nous qui avons choisi de rajouter. C'est pas une retouche qu'on a fait nous-mêmes. C'est les Moshe Mishinaï. Et la même chose pour le dernier de la liste, tzidkatra ke'arereel, c'est le kaf qui est en plus, qui est itur sofrim. Pourquoi? Sans le kaf, ça pouvait s'entendre tout autant, dit le ran, etc. Faut voir de plus près. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième catégorie, kerian veloktivan, les psukim qui sont, où il y a des mots lus, mais non inscrits dans le texte. Comme ça, tu arrives, on t'a appris qu'il y a un mot à lire ici, tu le vois pas. Il est pas dans le texte, ça existe. Par exemple, Perat de Belerto. Alors, le pasuk, il est dans Shmuel. Vayar David est à Deser Ben Rechov Melertsova. Belerto le Hashiv Yado Binar Perat. C'est pas écrit le mot Perat là-bas, mais c'est lu. Néar Perat. Ou bien Ish, le mot Ish, de Kacher Ishal Ish. Bidvara Elohim. Le mot ish dans l'expression Kacher Ishal Ish Bidvara Elohim, pour ceux qui connaissent le Tanar, comme à l'époque, tout de suite on tilt sur le pasuk, toujours dans Shmuel. Ouais, ok. Le mot ish, il n'est pas écrit dans le texte, mais il est lu. Ou bien encore, im denivneta. Le mot im, dans le pasuk de venivneta ir lachem, c'est dans Yirmiya. Le mot im, il n'est pas lu. Il est lu, mais il n'est pas écrit. Ou bien là, des peleta. Et de huged, hugad, dans route. Elai, de agoren, c'est aussi dans route. Le mot elai, il est lu, mais il n'est pas écrit. Elai, de aseorim. Tout ça sont des mots que halin, ceux-là sont les karyan veloktivan. Les mots lus, mais non inscrits. Maintenant, on a aussi évoqué le contraire, des mots inscrits mais qu'on ne lit pas. Au niveau de la lecture, ils sont omis. Katvan velokarian. La Gemara donne des exemples. Na de Islar. Il y a une expression quelque part. Le mot na, il est écrit mais on ne le lit pas. Ou bien le zot de Hamitzva. Alors ça, d'après le Gaon de Vilna, ce n'est pas du tout dans la Torah. C'est dans Yirmiya, un certain pasouk là-bas, où il y a le mot zot. Associé, donc il faut voir là-bas le texte, mais en tout cas, vous voyez le passage qui dit « Vaikar et Sefer Amikna », non, c'est marqué. C'est un effet, faut voir, en tout cas, ah ben, c'est dans Yirmiya, c'est pas dans la Torah. Ok, ensuite, « Yidror te adorer, chamesh te peat negev, im de ki goel » Voilà, à chaque fois, la Gemara dit le mot « im » de l'expression associée à « goel ». D'accord ? Ou bien le mot « chamesh » associé à « peot negev ». Là-bas, dans telle référence qu'on connaît, enfin, moi je ne connais pas, mais que tout de suite les gens, ils entendent ce terme, cette expression, et ils savaient où ça renvoie dans le Tanakh. Et donc, la Gemara, elle fait comme ça un petit survol pour donner quelques exemples de mots qui sont écrits, mais qui ne sont pas lus. C'est ça que l'agmal termine. Halin, ceux-ci, sont les kitavan velokarian, ceux qui sont écrits et non lus. Voilà, toutes ces indications particulières. c'est, ça relève d'une massorette qui remonte à quand? Les Moshe Missinaï. Point. Amar Avacha Barada.
Mais c'est dans le Nar.
Oui. Mais ces indications que ce mot, il ne faut pas le lire, ou que ce mot qu'on ne voit pas, il faut le lire comme s'il était écrit. D'où on sait tout ça? Alors, c'est une transmission orale qui remonte depuis Moshe Rabbeinu.
Oh, mais il y avait encore Shmuel.
Et alors? Alors, comment Moshe Rabbeinu nous a dit sur le Sefer de Shmuel, etc. Bonne question. Je sais pas. Bonne question.
Ça rend dans les exemples. On dit que tout ça, ça fait partie de la Ramoshe Messinaï.
Oui, mais il n'existait pas encore ce livre.
Je ne sais pas. J'ai pas pensé. C'est une bonne remarque. Je ne sais pas. J'essaie de voir. Je termine juste encore trois lignes pour boucler. Amarava Chabarada. Bimarava Paskin Aden Pesuka Liklata Psukin. En Eret Israël, ce pasouk, on le découpait en trois. Lequel? Vayomer Hashem Elai, Moshe, Hine, Anochi Ba Elecha, Be'ave Anan. On coupait ce pasouk en trois. Ça montre que quoi? Que, comme on l'a dit plus haut, la manière de couper les psukim, ça aussi, c'est retransmis. Et là-bas, il y avait une manière spécifique de couper un pasouk que nous, on ne connaît pas. Ok, bon, Blinéder, je vais essayer de voir ce que vous avez demandé. Je ne sais pas.